Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le Super Catch-Up, le podcast qui transpire le catch chaque semaine. On analyse ensemble tous les shows de la WWE et aujourd'hui, direction le show bleu de SmackDown du 8 septembre et le show rouge Monday Night Raw du 11 septembre. Pour m'accompagner dans cette double analyse, j'ai avec moi Papy. Salut Papy.
Bonjour petits enfants, bonjour le patron, c'est parti pour Super Catch-Up.
Le Super Catch-Up, nous sommes à SmackDown, nous sommes à Boston, dans le Massachusetts. Il n'y aura pas John Cena, déjà, ça c'est le premier point.
Ouais, ça commence bien.
Boston, Massachusetts, le local n'est pas là. Donc, j'espère que vous n'avez pas payé votre billet pour voir le futur Hall of Famer. Par contre, si vous êtes venu voir du catch féminin, eh bien vous allez être gâté. Eh oui, puisqu'on a un tag team match en opener qui va opposer le Damage Control représenté par Bayley et Io Sky, la championne en titre, hein, je vous rappelle, au cas où vous avez oublié. Et si vous avez oublié, c'est pas grave, c'est normal. À Charlotte Flair et Shotzi. Eh oui, rappelez-vous, hein, cette histoire un petit peu de Shotzi qui affronte Bayley et Charlotte qui vient un petit peu chercher des noirs à Io Sky. Eh bien, on reprend les affaires dans ce match qui commence par une grosse brawl, hein, entre les quatre filles. Et puis ça s'agite, et là, jusqu'à l'apparition d'Asuka, qui apparaît derrière Dakota Kai, alors que Dakota Kai était parti chercher les ceintures, je crois, aux abords du ring. Et Asuka était là, cachée derrière la barricade d'insécurité. Elle attendait, ça faisait 5 minutes qu'elle attendait. Et elle lui prend donc la ceinture de l'âge de championne, la ceinture donc de Io Sky. Elle est effrayée, elle a peur. Pendant ce temps-là, Bayley et Io Sky, pareil, sont effrayées, elles ont peur. Elles sont surprises, et Charlotte en profite pour envoyer Io Sky à l'extérieur du ring, et Shotzi qui place son DDT sur Bayley, et donc la victoire de Charlotte Flair et Shotzi face au Damage Control qui enchaîne les mauvaises soirées là, hein. Surtout que derrière Asuka vient fanfaronner avec la ceinture et on a un face-off entre elle et Io Sky en japonais qui ne fait pas forcément lever les foules. Et je ne suis pas sûr que dans l'appartement ou la maison, le manoir, la casa de Papy, se soit beaucoup soulevé non plus.
La maison de retraite, bah oui. mais bah non. Le festival de la loose, là, avec Io Sky qui non seulement est une championne qui n'est pas la leader de son clan, et puis maintenant en plus, elle n'est pas la leader d'un clan qui fait que perdre. Bon, bah, fouf. Championne du monde, hein, les gars, félicitations. Ils sont anti-climatiques, en fait, ce qui est en train de se passer à la division féminine. Même le face-à-face, le face-off entre Asuka et Io Sky, qui aurait dû être le truc qui a fait vibrer un peu la foule, et ben, personne n'a réagi. En plus, c'était un face-off un peu tristoun, parce que tu avais Io Sky qui était limite à le pleurer pour qu'on lui rende sa ceinture. C'est extrêmement faiblard, quoi. Donc. Ouais, je sais pas pourquoi, en fait, depuis la prise de titre, t'as l'impression qu'ils régressent encore plus. D'habitude, tu sais, des fois, ils font ça avant la prise de titre, histoire de brouiller un peu les cartes en disant, avant le cash-in, plutôt. Attention, est-ce qu'elle a avant le niveau et tout? Hop, cash-in, c'est bon. Et puis après, vraie championne. Donc là, c'est l'inverse. Ils la font cacher, puis, après, ils disent, en fait, elle est nulle, hein, cette fille. Et puis en fait, ce qui m'embête le plus, c'est que du coup ça donne limite raison à Giscard, et ça je trouve ça scandaleux.
Ah oui, c'est ça le pire. Au final, c'est ça le pire, de devoir avouer à Giscard qu'il avait raison depuis le début. Je suis d'accord avec toi, là tout est monté à l'envers, et en plus on a l'impression de régresser. Alors on n'était pas arrivé très loin, hein. C'est dommage d'abandonner après avoir fait 10 mètres et de finalement dire non, on commence à s'emballer. Et c'est bien dommage tout ça, c'est bien dommage, pas très excitant, il faut l'avouer.
Dommage contrôle,
pas mal. Et voilà, on trouve les titres en direct. D'ailleurs, tiens, j'en profite, je fais ma petite annonce en direct. Je cherche quelqu'un pour faire la vignette pour cet épisode, Papy. Si tu connais quelqu'un pour faire la vignette.
J'espère que beaucoup de gens nous écoutent alors.
Voilà, d'habitude, je te dis ça au dernier moment. Donc là, l'annonce est passée en direct.
Bon, pendant 2 minutes, si vous ne m'entendez plus parler, c'est que j'aurai attaqué le...
C'est qu'il est en train de craquer Photoshop.
Voilà.
Allez, je passe un petit peu. Je vais me concentrer sur LA Knight, si tu veux bien, puisque LA Knight débarque. Oh oui, c'est pour te faire plaisir. Hein. J'ai choisi tous tes chouchous. Tu m'as dit que tu ne voulais pas parler pendant 2 minutes. Et ben voilà. Alors, voilà, il trash talk un petit peu le Miz, qui fait du cosplay, vous souvenez-vous, hein, de cette fantastique séquence hein, qui avait été le top de Papy, justement, déguisé en faux John Cena, enfin, à affronter le faux John Cena, pardon, qui passe son temps à se plaindre. Les Knight du bah, voilà, lui, il n'a pas besoin de John Cena, même si je le respecte, hein, voilà, pour faire taire un petit peu les rumeurs lancées par Giscard, une fois de plus. Et quand soudain, la musique de Grayson Waller s'enclenche, et il est rejoint par Austin Theory. Il s'autoprogramme d'ailleurs la seule équipe invaincue du roster. Effectivement, ils ont eu un match la semaine dernière. Donc dorénavant, c'est une équipe sur qui il faut compter. Ils avaient battu Mysterio et Escobar, rappelez-vous.
Ah, bon niveau,
bah oui, quand même, il faut le faire. Ils sont allés chercher un Hall of Famer et ce type qui accompagne le Hall of Famer. Austin Theory, voilà, il dit, bah voilà, qui était l'arbitre là, qui a aidé les Knights à gagner? Mais c'est John Cena, l'homme qui l'a battu à WrestleMania, souvenez-vous. C'était il y a longtemps, ça nous paraît bien longtemps, bien loin maintenant. Il a aussi battu les Knights à ses débuts, c'est vrai qu'on avait un petit peu oublié tout ça. Voilà, donc les Knights vient de débarquer alors que Theory est là depuis tellement longtemps, il a fait déjà tellement de choses depuis qu'il est arrivé. Et du coup, les Knights le chauffe et lui demande un match contre Austin Theory. Grayson Waller vient à la table des commentateurs pour le match et il annonce d'ailleurs que John Cena sera là la semaine prochaine. Et oui, il n'est pas là à Boston, mais il sera là la semaine prochaine au Grayson Waller Effect. Que du beau monde, hein, au Grayson Waller Effect.
C'est un segment select. Hein.
Ouais, effectivement, on n'invite pas n'importe qui à ce show. Le match entre LA Knight et Austin Theory, eh bien on voit sur la fin Waller qui va vouloir aider son poteau hein, en retirant notamment la protection du ring et Austin Theory qui va vouloir en profiter, mais LA Knight ne se fait pas avoir, il lui place une descente du coude, un people elbow on peut le dire hein, tout simplement, et Waller monte sur le tablier du ring hein, pour faire distraction auprès de LA Knight, la tentative de roll-up. Mais LA Knight ne se fait définitivement pas avoir ce soir. Il est concentré, il place son finisher, le BFT, pour l'emporter. 1, 2, 3, victoire de LA Knight. Juste derrière, mon papy, le Grayson, il va attaquer LA Knight, mais LA Knight, il se fait pas avoir, j'ai dit, hein, il était concentré. Il n'a pas écouté Grayson Waller. Et donc Waller est obligé de battre en retraite. On a un petit peu plus tard, papy, une petite séquence avec Adam Pearce qui discutait avec Polo et Elena qui débarque. C'est intéressant d'ailleurs. Hein. Il faut savoir qu'il va un match contre le Miz, un autre match clean cette fois-ci, hein, sans arbitre spécial. D'accord, il y en a marre de ces retraités qui viennent arbitrer et foutent le bordel. Il lui dit d'accord, bah à SmackDown justement, comme il y a le Grayson Waller, tant qu'à faire, on fait un petit package. Et là, on a Polo qui se présente à Elena, il dit bonjour, je m'appelle pas Henri, mais Paul Heyman. Je suis un grand fan, mais la prochaine fois, il faudra toquer avant d'entrer. Est-ce que j'ai trouvé... LA Knight n'a rien répondu. Il a pris le respect depuis la dernière fois avec John Cena. Il a pris Aster, j'ai l'impression.
Ben, c'est ça, il s'est dit, tiens, cette fois-ci, l'autre jour, je me suis fait engueuler quand j'ai voulu être original. Là, je vais juste regarder en étant... Puis, il n'avait pas l'air content, mais bon, il est reparti. Bon, c'est... Ça l'a remis un petit peu à sa place, peut-être. Hein. C'est... Il y a peut-être raison qu'il faille. Il faut qu'il toque avant d'entrer, les Knights. Pour l'instant, il toque sur la low card, puisque bah, Austin Theory et Grayson Waller, c'est à la fois rafraîchissant d'avoir ces deux petits jeunes-là qui, on voit l'écran, mais d'autre côté, ils sont vraiment présentés comme faiblards, je trouve. Ça me rappelle le Miz et Morrison, mais à leur début. Donc, très, très, très loin. Peut-être meilleur en termes de in-ring quand même, parce que Miz au ses débuts c'était très compliqué, mais c'est vraiment les grandes gueules jeunes et puis qui pour l'instant ont du mal à, que de temps en temps tu vas faire croiser un main eventer histoire de les voir se faire massacrer, mais qui pour autant ont peu de mal à décoller. C'est étonnant pour Theory qui jusque là avait quand même eu plutôt un bon push. Et je trouve depuis un an, là, c'est vraiment bien retombé. Et ça redevient, comment dire, pourrait dire ça, calme. Calme avec Theory, quoi. Il fait pas lever les foules, le Austin.
Non, non, non. Ben, moi qui lui imaginais des plans plus grands, justement, en laissant tomber cette ceinture US, en allant chercher peut-être notre ami Seth Rollins, toi, en disant, ben, voilà, c'est l'échelon supérieur, quoi. Là, effectivement, c'est là il est mis en salle d'attente, quoi, dans l'antichambre du main event, qui est la division tag team, quoi, parce que se retrouver, ça m'étonnerait pas qu'ils fassent quelques piges pendant plusieurs semaines en tag team, les deux-là. Hein. C'est pas impossible.
Bah,
hein.
Ouais, voilà, bah, je pense que ça sera un nouveau truc, mais du coup, ça sera un petit peu inquiétant. Oh, ils ont encore énormément de... Enfin, ils sont tous les deux jeunes, donc ils ont énormément de... d'années devant eux, et c'est pas parce qu'ils, même s'ils passent deux ans en tag team, ce sera pas la mort. Mais bon, c'est vrai que le théorien, c'était vraiment imaginer que ça serait le futur main eventer, mais main eventer version jeune, quoi. Pas le mec qui arrive au bout de 20 ans au mérite, quoi. Donc bon, à voir.
En tout cas, pour l'instant, les voilà coincés, si on peut dire, dans une rivalité avec LA Knight. On retrouvera donc tout ce beau monde la semaine prochaine. Je vais dans la division tag team, je reste dans la division tag team même, carrément. Hein, puisque j'ai dit qu'il faut assumer, hein, j'ai dit que c'est la division tag team, donc j'assume. On a eu des séquences avec le Judgment Day, hein, qui est toujours partout, partout à la fois, le Judgment Day. Ils sont, ils font leur entrée, car ce soir, ils auront d'ailleurs un match un petit peu plus tard. Damien Priest nous dit, voilà, ils sont fiers, ils ont fait quelque chose que la Bloodline n'a jamais fait. Alors ça y est, là, on envoie des taquets. Le patron n'est pas là, hein. Le chef tribal n'est pas là, donc les bouches se permettent de s'ouvrir. Ils ont battu Sami Zayn et Kevin Owens, papy, ils ont remporté le titre, et ouais, tout simplement. Dominic Mysterio, Domino, bon, se fait encore huer par la foule, voilà, il y a du débat sur est-ce que les micros, est-ce que les potards sont tournés à gauche et à droite pendant qu'ils parlent, voilà, ça commence à faire des théories du complot sur le ouais. Discord de Catch-Up.
Je suis pas sûr qu'il y ait de grandes théories là-dessus. Enfin, après, il y a certainement un petit jeu là-dessus pour que ça amplifie l'effet. Mais si c'était vraiment un truc créé de nulle part, je pense que le public aurait vite réagi. Là, je pensais comme quelque chose.
Non, ouais, on voit, t'as des groupes, on voit les gens huer. Bon, c'est le nouveau jeu, tout simplement. Enfin,
ouais, ça les fait marrer en plus, ces gens.
T'as envie de le faire. Donc, le mec, on l'entend même plus. Je trouve ça excellent, c'est que maintenant, il parle même quand il y a les huées. Et du coup, on ne comprend même pas ce qu'il veut dire. Et là, on ne comprenait absolument rien. Donc ça met des petits taquets tranquille à la Bloodline, à Roman Reigns hein, d'ailleurs, il en place une pour Roman Reigns, hein, c'était le soir-là aussi qu'il dit bah, voilà, qu'ils ont réussi ce que Roman Reigns lui-même n'a pas réussi à faire. C'est pas juste la Bloodline, hein, souvenez-vous, hein, ce match avec Roman Reigns et Solo contre les Canadiens, ouais, il n'avait pas réussi à remporter le titre. Et puis Vlatipa que Boubouch et Ridge Holland débarquent, donc les Brawling Brutes, ils disent que ce soir c'est Fight Night. Ridge Holland, voilà, il a l'habitude de briser des gars comme eux. Par contre, il faut s'inquiéter de Butch. Lui, c'est un foufou. On a un petit face-off entre les deux et Butch qui éclate les doigts de Finn Balor. Hein. Lui a remis dans le bon sens, je ne sais pas. Et on a donc notre match Brawling Brutes versus Judgment Day.
Non, c'est pas Judgment Day, hein, c'est autre chose.
Judgment Day. Voilà, ce serait pas mal ça. Un gimmick. Oh bah, ouh, il y a eu. Il y a eu un truc qui ressemblait presque à ça à NXT.
Ah, ouais. Avec les DD.
Non. Un truc à ambiance tropicale, Jumanji. Jumanji, la version où ils sont dans la jungle, pas la version.
D'accord.
Dans la ville. Voilà. Enfin bref, je m'égare, je m'emballe, puisque ce qui était important dans ce match, c'est qu'il y avait les Pretty Deadly qui étaient de retour pour regarder la rencontre. Ils étaient, voilà, un des deux, j'oublie leur nom, hein, mais parce qu'ils avaient des noms totalement génériques. Qui est celui qui est dans sa chaise roulante. Mais qui est
machin et bidule, voilà.
Machin et bidule. Qui regardait la rencontre, et à la fin donc, du match, on a le South of Heaven de Damien Priest sur les deux, sur Ridge Holland et sur Butch. Le tag qui est fait avec Finn Balor, qui en profite pour placer son coup de grâce sur Ridge Holland pour le tomber, et donc la victoire tout simplement du Judgment Day. Ce qui est intéressant derrière, mon papy, c'est la musique de Bobby Lashley. Eh ouais, et les Street Profits qui débarquent et tout simplement qui viennent défier le Judgment Day pour les ceintures, sûrement, et le contrôle du show. Parce que maintenant, tout le monde proclame, patron du show. Mon papy. Qui sont les boss dans cette histoire?
Qui sont les boss? Bah, le patron n'est pas là, comme tu le rappelais. Donc du coup, et c'est vrai que c'est, de toute façon, c'est un sentiment qu'on aura sur ce SmackDown et qu'on a ce pied derrière SmackDown, c'est que ça manque d'un patron en ce moment. Et bah, du coup, bah, le Judgment Day qui a bien heureusement acquis les ceintures tactiles lui permettant de bouger de show en show juste après le départ de Roman. et qui donc du coup bah, passent leur tête, et bah, on a Bobby qui était en train de montrer son clan dans son coin là, et qui dit bah attends, c'était moi là, j'avais un plan là, c'est moi qui voulais être le patron, donc à voir. Et c'est intéressant parce qu'en plus le clan de Bobby qui semble être un clan heel au début, parce que mine de rien ils sont quand même devenus bien plus violents, les Street Profits, bah, le public pour l'instant il accroche à mort quoi, donc c'est peut-être l'occasion justement de les foutre contre le Judgment Day en disant bon bah si je veux les soutenir, autant les envoyer contre un clan identifié heel quoi, puisque les Judgment Day à l'exception de Rhea Ripley ça reste quand même bien hué quoi.
Oui, effectivement. Mais ouais, c'est intéressant de voir cet alignement des Street Profits. Pour moi, c'est toujours pas clair. Hein. Même en les mettant face aux Judgment Day, je saurais pas te dire quoi. Que les Judgment Day, c'est des heals qui sont prêts à être face. Et les Street Profits, c'est des face qu'on essaye de nous mettre heal, mais en fait, ils savent pas trop. Donc, il faut qu'ils prennent une décision, papy, tout simplement. Peut-être qu'ils ont besoin d'un petit logiciel de prise à décision, tu sais. Tu entres tous les paramètres, puis à la fin, ton logiciel te dit, bah voilà. Les Street Profits, ils sont gentils, et puis les Judgment Day, ils sont méchants. Et comme ça sera plus clair pour tout le monde.
Ouais, mais est-ce que justement la prise de décision n'est pas le gros manque d'un certain Monsieur Gronet qui dirige souvent.
C'est Monsieur Gronet, le plus gaulois des Américains, effectivement. Bah oui, si, certainement, certainement. Il y a un moment, à force de vouloir faire subtil ou de pas trop savoir ce qu'on veut, effectivement, on arrive dans des situations un peu étranges, hein, effectivement, avec Street Profits. Tant que ce sera pas clair, pour moi, ce sera pas clair. Voilà. Tant que c'est flou, il y a un loup. Mais c'était pas notre dernier match. Notre dernier match, il a pris racine au début du show bleu, papy. Et ouais, on a eu Jimmy Uso qui est là.
Ah, le Jimmy.
Eh ouais, il rejoint Poleman, qui était aussi dans les parages, on a déjà parlé de lui. Il dit, souviens-toi de ce que Solo a dit la semaine dernière, hein, t'es toujours dans la Bloodline tant qu'on t'a pas dit que t'y es plus, hein, tout simplement. Alors Jimmy, il dit là, c'est quoi la stratégie? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Wise Man? Donc il est un peu là, il gratte un petit peu, il essaie de retrouver son chemin un petit peu, il revient, le chien qui s'est échappé et qui revient la queue entre les jambes, quoi. Hein.
Ouais, et puis il avait déjà aidé... Solo la semaine dernière déjà, donc on voyait déjà qu'il disait finalement pourquoi pas. Hein.
Ouais, donc il veut faire patte blanche, montrer patte blanche. Il dit bah écoute, Roman Reigns n'est pas là, et tant qu'il n'est pas là, tant qu'il n'a rien dit, Jimmy fait toujours partie de la Bloodline. Hein. Et ce soir, voici ton petit challenge. En tout cas, Jimmy dit ce soir, je vais m'occuper de AJ Styles et il fera tout donc son possible. Pour que la famille soit de retour, la grande famille de retour. Jimmy veut faire un check à Polo, et Polo lui met un gros vent, et Jimmy va attaquer AJ Styles, alors qu'AJ Styles commençait à vouloir embrouiller Poleman. Et ouais, et donc du coup derrière, ça va donner naissance à un match entre AJ Styles et Jimmy Uso. Et j'essaie d'ailleurs qu'ils demandent à ses potos de Zio aussi de le laisser tranquille.
Hein. Ouais, parce qu'ils ont merdé la semaine dernière.
Ben ouais, ils ont merdé la semaine dernière. D'accord. Bon, écoute, tout simplement. Il y avait un petit peu... C'est un peu tendu. Hein. Tout le monde est tendu, de toute façon. Et pas Caro, même à SmackDown. Hein. Les clans, les amitiés sont un petit peu tendus. On a donc eu un match, Jimmy versus AJ Styles. Un match bien disputé entre les deux hommes. On a eu notamment sur la fin du match Polo et Solo qui sont arrivés, hein, ringside, et Jimmy qui est sorti et qui a fait un petit face-off avec son frangin, parce que voilà, les deux sont pas forcément très copains, hein, depuis ce qui s'est passé. Et AJ Styles en a profité pour attaquer Jimmy et Solo. Et quand il remet Jimmy, il en profite pour placer son Phenomenal Forearm et donc remporter la mise. Et donc victoire de AJ Styles face à Jimmy Uso. Juste après, il s'en va pour alors que Solo Sikoa va attaquer AJ Styles. Mais c'est Finn Balor qui vient le cueillir et Damian Priest qui ramène donc le chef de clan de Zero aussi sur le ring en offrande à la Bloodline, et Solo Sikoa qui place donc son gros pouce samoan sur AJ Styles, et c'est ainsi que se termine le show. Jimmy, le chemin est long, mais c'est le chemin de la rédemption, mais une rédemption qui va aller jusqu'où, pour mon papy? toutes les portes, beaucoup de portes ont l'air ouvertes aussi.
En tout cas, oui. Oui, ils ont, ça a rouvert des portes et on voit, on en reparlera tout à l'heure avec, avec son frangin qui est parti du côté rose. Ils n'ont pas du tout la même trajectoire entre un Jay qui est parti pour directement tutoyer les étoiles et un Jimmy qui est un peu le frangin loser, quoi, qui est resté et puis qui essaie de s'accrocher à Bloodline en mode je t'aime moi non plus. Il était assez marrant parce qu'en quelques, même pas quelques épisodes, en un ou deux épisodes, il a totalement tout perdu, quoi, Jimmy. Il était en mode ah, moi aussi, je suis contre Roman et tout, je me fais pas acheter, je suis là pour défendre mon frère. Puis en quelques épisodes, c'est redevenu un des laquais de la Bloodline. Il est limite en dessous de Solo, finalement, hein, dans le clan. Oui. Donc ça craint vraiment pour lui, quoi. Et je ne sais pas comment il va sortir parce que c'est un peu compliqué. Et là-dessus, c'est vrai que alors, la confrontation avec AJ Styles et Zio aussi, ça donnait pas forcément envie parce que c'est notamment le clan des vieux qui ont été au Japon, plus Michin, qui fait que chialer. Ça donnait vraiment pas envie et à la limite que de voir AJ Styles s'en séparer, c'était peut-être la meilleure nouvelle qu'il pouvait y avoir. Néanmoins, le fait de voir à la fin le Judgment Day se mettre au milieu de ça et attaquer AJ Styles pour l'offrir en offrande, comme tu disais, à ce qui reste de la Bloodline, ça relance un peu l'intérêt, on va dire. Ça rehausse un peu le goût de cette fin de show qui avait été encore une fois un show assez fadasse, quoi.
Ouais, moi j'ai beaucoup aimé effectivement. J'aime beaucoup ce qu'ils font avec Jimmy. Pour moi, pour l'instant, c'est la petite surprise cachée dans SmackDown. On est très excité avec ce qui se passe pour Jay, ce qui est un peu le point focal de cette histoire de rédemption du côté du show rouge, et on en parlera juste après pour Monday Night Raw. Mais j'aime beaucoup aussi ce qu'ils font avec Jimmy qui, finalement, comme je le disais, c'est le chien qui a voulu s'échapper de la meute et il a même aidé son frère à s'en sortir, mais il s'est retrouvé tout seul et maintenant, voilà qu'il revient la queue entre les jambes. Parce que c'est le plus facile pour lui, mais il revient en position totalement soumis, quoi. Il est plus alpha ni oméga, il est tout en bas, voilà, comme tu dis, juste encore en dessous de Solo. Et ça peut être très intéressant de voir à quel point, qu'est-ce qu'il va être prêt à faire, qu'est-ce que ça va lui coûter d'essayer de revenir vraiment dans les bonnes grâces, hein, du chef.
Un peu à l'histoire un peu à la Sami Zayn finalement. Hein. Et je pense que ça serait le bon chemin de rédemption de Jimmy de prendre exactement ses les pas de Sami en disant le mec qui essaie par tout le moins de revenir dans la Bloodline et qui est larbin, quoi, qui va juste aider à gagner des matchs et puis se faire un peu humilier régulièrement. Et je pense que c'est le meilleur qui puisse arriver pour Jimmy, ouais.
Et après, derrière, ça peut être la genèse, la naissance de soit un top babyface, soit un top heel. Enfin, c'est ça qui est incroyable. Et on en parlera aussi avec Jay, c'est la même mayonnaise. C'est que là, ils sont dans des histoires où, à la fin, en fonction... C'est presque moins en fonction d'eux qu'en fonction des autres, comment les autres réagissent à ces deux frangins séparés, que va donner naissance soit un super gentil, soit un super méchant. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Donc voilà, s'il y a bien une bonne raison de regarder SmackDown... Un petit truc un peu caché là-dedans, dans cette misère sentimentale, c'est le destin de Jimmy. Le destin de Jimmy, tout simplement. Eh bien, on va parler du destin de ce show, mon papy. C'est l'heure du mot de la fin. Est-ce que tu veux bien nous partager ton top? Ça va être dur, je sais, mais tu peux y arriver. Ton flop, ça, je sais que tu vas y arriver. Et ta note, s'il te plaît.
Oui, mais en fait, non, tu te trompes, mon cher Irem, c'est parce qu'en fait, c'est plus facile de trouver le top parce qu'il n'y en a pas beaucoup que de trouver le flop où il y a trop de choix. Le top, moi, du coup, je vais effectivement rester là-dessus, rester sur cette espèce de. Alors, je vais pas focaliser sur Jimmy, je vais plus focaliser sur la lutte de pouvoir au sein de ce SmackDown où en fait, le pouvoir est vacant, clairement, là maintenant. Et il y a une espèce de lutte de pouvoir donc avec le Judgment Day, avec le reste de Bloodline qui essaie de maintenir un peu le pouvoir avec notamment donc Jimmy le loser on n'oublie pas AJ Styles qui représente lui aussi et un petit peu de Bobby Lashley donc si il pouvait avoir la bonne idée de faire une vraie lutte des pouvoirs avec ces quatre entités là je pense qu'on pourrait un peu rire quoi sur SmackDown. En revanche En revanche, si on continue à nous bassiner avec cette médiocrité de division féminine ou de LA Knight et tout compagnie, là, ça va faire moins bien. Donc, du coup, le flop, je vais le donner aux filles, parce que je, par principe, en fait, je vais le donner aux filles parce que l'image, en fait, Asuka versus Io, et du coup, je leur donnais à L2, hein, en termes de représentation des filles, qui ne fait pas lever les foules, alors qu'il y a quelques mois à peine, les deux qui s'insultent en japonais, c'était « Ah, super et tout, génial, on va voir du… » Là, il y a vraiment la feud qui veut faire, qui fait bruisser les internets, qui fait bouillir le public. Mais non, mais là, tout le monde s'en fout, quoi. Et voilà. Et moi aussi. Et ma note. Ma note. Je vais remonter au-dessus de la moyenne, juste sur cette histoire de lutte des clans. Mais allez, je vais rester quand même à 2,5. Je ne vais quand même pas m'enflammer parce que c'est… Il y a vraiment un gros, gros fond de moyenasse là, qui traîne pour le reste du show.
En tout cas, s'il y a une direction à prendre, c'est celle-là. C'est cette histoire de lutte de pouvoir. Effectivement, si tu regardes cet épisode comme une petite graine qui vient d'être plantée en nous pour le futur de SmackDown, ça peut laisser espérer des jours meilleurs. Mais je suis d'accord avec toi, c'était quand même bien moyenasse. Peu d'ambition en fait, il y a peu d'ambition à part cette histoire de fond qui a l'air de vouloir se mettre en place, mais ailleurs pour toutes les choses qui devraient déjà être rodées, notamment la division féminine autour du titre qui est mis complètement au second plan. Moi c'est ce que je vais mettre mon flop aussi sur la division féminine. Je suis d'accord avec toi, je pense que je vais avoir le même flop que toi là-dessus, ce face-off. Mais plus généralement, de toute façon, ce programme à SmackDown, la division féminine, est très, très, très décevant, si on peut être encore déçu. Et en top, moi, je vais le mettre à Jimmy. Qui, effectivement, au milieu de cette histoire de lutte de pouvoir, l'histoire de rédemption de Jimmy, qui a l'air d'être quelque chose de très intéressant à suivre, et un 2,5 me paraît un bon choix, une bonne note. Voilà. C'est moyen, mais il y a un petit peu d'espoir. Mais bon, on ne veut pas s'emballer, tant qu'on n'a rien vu, on n'a rien vu.
Voilà, Jimmy est en train de construire sa légende, on y croit.
on pourra venir dans 5 ans, voilà. On pourra dire, souvenez-vous, à Catch Up, on l'avait vu, on l'avait senti, c'était le début. Nous sommes à Raw, nous sommes le 11 septembre 2023, voilà, une date terrible pour les États-Unis. Mais heureusement, c'est le show rouge, c'est Monday Night Raw. Donc, si en plus ça avait été un jour de SmackDown, ça avait été un vendredi.
Ah ouais, là ça aurait été dramatique. Hein.
Là, je pense que tous les drapeaux auraient été en berne. Non, c'est le show rouge. Et oui, le show rouge, c'est là où ça bouge. Nous sommes en Virginie, à Norfolk. Il y a du public. Tout le monde est chaud ce soir. Et c'est Main Event Jey Uso qui fait l'opener, comme on l'avait prédit la semaine dernière. C'était bien pour ça qu'on avait nommé. Titrer notre analyse ainsi, Jay, voilà. C'est sûrement une image, hein, une image très forte de dire, bah voilà, Jey Uso, Main Event Jey Uso, il va falloir qu'il gagne sa place dans le Main Event. En attendant, il se tape l'opener, qui est déjà une bonne place aussi, il faut l'avouer quand même. C'est toujours bien de faire l'opener, plutôt d'être noyé au milieu du bazar des 3 heures du show rouge. Il est content, et puis il y a la musique de Kevin Owens qui débarque, et lui, il est moins content. Il est moins content, hein. Papy à Kevin, il est même pas très content. Voilà, il dit bah voilà, on n'est pas au show de Jey Uso, là on est au Kevin Owens show. Mais je me suis retrouvé dans un peu la même position que toi, Jey. Je sais ce que tu es en train de subir. Voilà, j'ai fait des mauvaises choses aux mauvaises personnes. Il a dû corriger le passé, mais c'était difficile. Il a besoin de temps pour gagner le respect des gens. Et même encore aujourd'hui, les gens ne lui font pas confiance et n'ont toujours pas de respect. Hein. Simplement. D'ailleurs, Matt Riddle, Drew McIntyre l'ont bien montré. Mais voilà, apparemment, Cody, puisque c'est Cody, responsable, le directeur RH.
Ce connard de Cody.
Lui a donné une chance et s'est mis la semaine dernière Taiki à bras ouverts. Bon, écoute, donc, il se fait un petit peu à l'idée. Mais par contre, pour gagner le respect, il va falloir le prouver. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mon papy, de gagner le respect. Des autres. Parce que t'étais comme un sacré salopard, tout simplement. Et puis Judgment Day débarque, encore, et toujours.
Oh, ça fait longtemps, tiens.
C'est vrai que je pense que le Judgment Day débarque, ça doit être la phrase que j'ai sortie le plus depuis ces 6 derniers mois.
C'est l'arc scénaristique de tous les, sais, les bookers sont en train de monter leur show, ils font, bon alors qu'est-ce qu'on va faire pour faire la transition? Bah tiens, si on faisait débarquer le jugement de D.
Donc Finn Balor dit, personne ne parle à Jey Uso comme ça, non mais dis donc.
Mon poteau.
Ouais, ouais, Jey, il a rien à prouver. Il y va un peu moins subtil que Domino la semaine dernière. C'est mon poteau, il a rien à prouver à Kevin. Tout le jugement d'être respect, mec. Kevin, tu parles pas pour tout le monde comme ça, c'est pas bien. C'est Judgment Day qui dirige le show, ça c'est Damien Priest qui en place une. T'inquiète pas, Jay, t'as besoin de temps pour prendre ta décision. La porte du Judgment Day sera toujours ouverte. Et Dominique veut dire un truc, mais on l'entend pas trop, mais en fait il dit que lui il voulait pas au début. Hein, c'est vrai, il voulait pas rejoindre le Judgment Day. Souvenez-vous, il disait non. Puis au bout d'un moment, il a dit oui. Il en avait marre. Il a dit oui, bon, bah d'accord.
Il y a un petit forçage quand même à ce niveau-là.
Petit forçage. Voilà. Là, c'est un petit peu la technique du forçage. Mais bon, ça lui a réussi. Des fois, ça réussit pas, mais là, ça lui a réussi. C'est la meilleure version de lui-même, il le dit. Et en plus, il est champion. Regardez, il a une jolie ceinture. Donc voilà. Et puis la prise dit voilà, on est ici parce qu'on pense avoir un match contre les Canadiens. Et où Samy tu dis bah, Samy n'est pas là. Mais il n'y a pas de problème, je peux vous affronter tous les trois. Et pourquoi pas. Pourquoi pas dès ce soir et maintenant. Et Jay dit bah ouais moi aussi puisque tu veux mon respect et ben tu vas l'avoir ce soir, je viens avec toi, on va bagarrer le Judgment Day. Et Kevin est d'accord. Oh d'accord, donc les autres Judgment Day sont un petit peu déçus hein, et surpris hein, par ce choix de Jay, premier mauvais choix de Jay hein. c'est pas bien Jay, attention. Jey Uso et Kevin Owens contre Judgment Day avec Domino en ringside. Un gros match évidemment entre tout ce beau monde. Et puis sur la fin, Kevin Owens qui veut placer son stunner, mais il est repoussé par Damian Priest. Et le super kick de Jay est lancé. Mais évidemment, les super kicks de Jay, on sait où ils vont. Ils vont jamais sur la bonne cible. Ils vont là en pleine tête, en pleine poire du Canadien. Kevin Owens se bouffe la semelle de Jey Uso et Priest en profite pour jarter Jay du ring et le coup de grâce sur Kevin Owens pour la victoire de Judgment Day. Et à Kevin y repart et il est pas content malgré Jay qui va le retrouver. Il va tenter de s'excuser, mais alors Kevin il est furax, il lui dit si c'est comme ça t'as qu'à aller rejoindre la Bloodline. Est-ce que ce serait pas la meilleure chose à faire pour lui finalement, papy?
En tout cas alors c'est... On parlait tout à l'heure d'un frère Uso qui essaie désespérément de retourner à la Bloodline, la queue entre les jambes, et qui avait du mal à se faire accepter de nouveau. Et voilà l'autre qui a quitté la Bloodline avec fracas, qui est bien plus fort que jamais, et où c'est l'adversaire qui lui demande de retrouver la Bloodline, en fait. Donc c'est un joli paradoxe, finalement, ces histoires-là. C'est du classique hein, sinon hein, le mec dont tout le monde doute qui en plus fait des conneries et qui du coup provoque les doutes sur sa réelle volonté. Alors le problème c'est qu'on a un peu le même sujet à Raw déjà avec
McIntyre
exactement. Donc c'est un petit peu dommage qu'on ait deux fois la même histoire, mais sinon le reste il reste assez original avec le Jay qui est vraiment en train de se lancer dans de nouvelles aventures et dans de nouveaux carrières finalement, la carrière de d'opener main event du Uso. Il se passe bien là, il est vraiment en train de s'inscrire dans le show maintenant, il s'est très très vite adapté et puis Je lui souhaite tout le meilleur à opener main event Jey Uso.
Jey Uso qui sera un peu qui va être le fil rouge hein, de ce show. Ils vont croiser à plusieurs reprises, notamment bon, peut-être on en parlera en temps voulu parce que sinon il y a eu beaucoup de choses.
Il est trop lent en fait, Jay.
Mais il va s'embrouiller avec tout le monde. Il traîne trop hein. Il irrite un petit peu tout le monde. Allez, tu sais quoi, je veux parler de lui tout de suite, en fait. Je vais balancer toutes les séquences.
Mais fais ce que t'as envie, mec.
Ouais, je fais ce que je veux. En fait, j'avais envie de parler de Cody Rhodes. Je sais qu'il t'aime bien, Cody Rhodes. Cody Rhodes, il prend le micro et puis il nous dit qu'il veut parler de Jey Uso. Toi, lui aussi, il veut pas. Tout le monde veut parler de Jey Uso. Mais il n'a pas le temps vraiment de dire grand-chose, qu'il est interrompu par le jugement des qui débarque.
Ah bah tiens.
Je me débarque. Il débarque. C'est représenté cette fois-ci par Dominique Mysterio et JD McDonagh. Eh oui, c'est pas les mêmes. Donc JD qui vient quand même, voilà, avec son pote Domino. Donc JD qui est une espèce d'extension du Judgment Day. Je ne sais pas à partir de quand on pourra considérer qu'il fait vraiment partie intégrante de ce clan.
Il a laissé.
Il a laissé, exactement. Il dit moi je vais te dire de quoi on veut parler, parce que Cody Rhodes, il vient prendre le micro avec son micro, mais il sait jamais de quoi il veut parler. Il nous demande toujours son avis, notre avis. C'est n'importe quoi. Il va dire merci Cody d'avoir ramené Jey Uso, Jey va nous rejoindre le Judgment Day, t'auras l'air bien idio, bien bête dans cette histoire, tu pourras rien y faire. Alors Cody il attaque Dominique et JD il intervient, et Cody arrive à repousser donc McDonagh, JD en dehors du ring, et le cutter qui est placé sur Dominique. JD revient et il se bouffe un crossroads, et Dominique se relève et il se bouffe un crossroads aussi. Donc comme ça, l'affaire est entendue, les deux peuvent repartir gentiment et gaiement. Quelque chose à dire sur cette séquence en particulier, avant que je déroule sur les autres séquences de Jey ?
Non, c'est, si ce n'est qu'on est sur du classique Cody Rhodes, micro, costard. Là, il est un peu catché, mais en micro, en costard avec son micro. Donc,
Les gens commencent à s'inquiéter sur l'état physique de Cody.
Je ne sais pas ce qui serait le plus inquiétant, finalement, c'est de se dire est-ce qu'il est blessé ou est-ce que il est c'est juste la volonté de ne pas faire catcher Cody Rhodes. Alors que je pense pas qu'il est suffisamment montré pour arrêter déjà sa carrière de catcheur, quoi. Je sais pas. Je suis toujours étonné par ces choix.
Ouais, on lui donne un traitement de superstar. Qui se contente de se montrer et de parler sans avoir même à salir les mains, quoi, effectivement. À part deux, trois petites crossroads placées pour faire fuir des saligots, mais sinon, c'est vrai que il part et il revient en costard, Cody Rhodes, en ce moment. Par contre, Jey Uso, donc, il traîne toujours, il va croiser Drew McIntyre, qui ressort d'un match... qu'il a eu. Alors Drew McIntyre, il y a un match face à qui ? Face à Xavier Woods, justement. Juste avant, on en reparlera.
Ils sont chauffés.
Avec Jey Uso, là, il lui a dit, écoute, mon histoire, elle n'est pas terminée, tu vois, avec toi. Donc, j'ai pas confiance en toi. L'autre, il dit, ouais, ok, c'est cool, pas de problème. Il dit, on va voir si tu peux tenir en solo. Jey lui lance un petit défi, il dit, t'as qu'à te pointer la semaine prochaine pour voir. Et donc McIntyre accepte le défi. Et donc, mon papy, on va probablement avoir un match Jey versus McIntyre la semaine prochaine.
Jey, de quoi ? Bah oui, bah, ça serait bien qu'on ait ce match-là qui soit officialisé pour continuer à avoir la montée en puissance de Jey au sein du roster. Et puis, par contre, les gros doutes de McIntyre qui décidément, on parlait tout à l'heure des Street Profits, on sait pas trop où les placer. McIntyre, c'est un peu le même, parce qu'il reste très populaire auprès du public. Par contre, il devient vraiment très connard auprès de ses collègues. Il s'embrouille avec tout le monde, et en plus, il est agressif. Et en plus, il doute un peu de tous ses collègues. Il leur laisse vraiment qu'une chance.
Effectivement, factuellement, pour revenir à... Parce que là, tu peux pas accuser les gens comme ça sans preuve, mon papy. Effectivement, il y a une petite vidéo de ce qui s'était passé avant le show où il s'est embrouillé avec Xavier Woods par rapport à tout ce qui s'est passé avec Kofi la semaine dernière. Les malentendus malheureux entre les cordes. Donc il y a beaucoup d'émotions. Et Drew McIntyre, donc l'Écossais commence un peu à chauffer, tu l'as dit, il est un peu tendu, il cherche un petit peu, il est un peu agressif, quoi. Passif agressif, mais tout le monde l'est un petit peu, lui pas mal. Et voilà, si Kofi est un homme, il a qu'à venir me dire tout ça en personne. Et Woods lui l'arrête, il fait hop, moi je te parle en personne. Et l'autre il dit non, moi faut que je m'en aille. Et l'autre il dit attends, moi je comprends, en fait t'es jaloux parce que quand t'as eu ton grand moment à la WrestleMania, souvenez-vous, il avait battu la bête pour devenir champion dans une salle vide. Donc c'était pas ouf, quoi. Par contre, Kofi Kingston, c'était la Kofi Mania, devant 80 000 personnes. Donc c'est pour ces lignes.
Il est pas sympa non plus, ce Wood.
Non, personne n'est très sympa, finalement, dans le show rouge. Et McIntyre dit « Ah, j'aimerais pas te blesser !» Mais t'as un match ce soir et on sait jamais, un accident est si vite arrivé. Et donc, ils ont eu un match, Xavier Woods contre Drew McIntyre. Et notamment, à la fin, on a eu Xavier Woods qui a fait un running kick sur McIntyre, mais les deux, enfin, ils se sont retrouvés dans les cordes et McIntyre l'a bloqué, lui a placé un Claymore kick. Et donc, la petite victoire de Drew McIntyre, voilà, une bonne victoire, mais derrière, il était effectivement tout tendu et tout nerveux et tout agressif.
Ouais, voilà, j'avais un petit peu mélangé l'ordre de mes idées, mais c'est ça. C'est que le Drew, il est à la fois toujours puissant, toujours soutenu par le public. Hein, dès qu'il balance sa clé morte, t'as le public qui reprend avec lui. Mais pour autant, il est vraiment... il est tendu.
Il est tendu. Comme les cordes des rings de la WWE. Bon, on retourne dans le temps. Hein. Je vous fais beaucoup voyager, mais c'est pour le bien de cette analyse. On a eu du Miz versus Tozawa. Super, hein, génial. Donc un Skull Crushing Finally, 1, 2, 3, voilà, la victoire du Miz. D'ailleurs, il en a placé 3, hein, je crois, des Skull Crushing Finally. Donc,
oui.
Tozawa, il a eu un traitement de main eventer, là, quand même, pour le Miz. Enfin, pour Tozawa face au Miz. On a retrouvé le Miz un petit peu plus tard. Oh oui, ça m'étonnerait qu'il soit venu juste faire... juste faire ça? Ben non, juste ça, il a juste fait ça.
Il fait ça, oui.
Ouais, d'accord.
Ok. Je le mise, hein. Il est au somme.
Oui, il est au somme. Ça suffit à lui-même. En coulisses, Raquel Rodriguez veut avoir veut parler de son match, puisque ce soir, ce sera d'ailleurs le main event. Il dit, ouais, avec Rhea Ripley, c'est peut-être la femme la plus dangereuse, la plus dominante, mais moi, j'ai pas peur de Rhea Ripley. La femme la plus forte ou pas. On verra bien laquelle on a le plus envie ce soir. J'ai trouvé qu'elle était très bien, Raquel Rodriguez, dans cette promo avec Byron Saxton. Elle lâche enfin les chevaux, elle est naturelle, elle joue sur ses forces, qui est bah, qu'elle est grande et qu'elle est balèze et qu'elle a envie de tout casser. Elle n'est pas perdue avec des histoires de tag team avec une pleureuse là, à chouiner.
Ah non, on ne parle pas d'elle. Hein.
Non, je voulais pas parler d'elle. Désolé. Mais j'ai trouvé ça très bien.
Mais Raquel, elle est plutôt en forme. Ça restera déjà son plutôt point positif.
Ouais, on reparlera d'elle, hein, parce que ce sera le main event. On reste dans le division féminine avec Shayna Baszler. Elle dit ouais, Zoé Stark m'a impressionné. C'est une bonne fille. Chelsea Green débarque. Elle dit bah voilà, ma partenaire. Donc Piper Niven est toujours sur la touche, hein. Elle est malade, elle a une gastro, et ça les gastro ça peut durer longtemps, ça peut durer au moins une semaine, donc c'est long. Elle dit bah écoute, de quoi tu me parles toi, on va se retrouver sur le ring, tu vas rien comprendre, et puis là Piper Niven débarque, et oui ça va mieux, elle a pris...
Elle était un peu pâle quand même, hein.
Elle était pas lotte. Peut-être falloir prendre des antibiotiques hein, finalement, peut-être quand même peut-être un verre.
Moi, elle manque de sucre.
Il faut boire du coca sans bulle. C'est ce que nous conseille Papy quand on n'est pas bien au studio.
Et voilà, voilà.
Il laisse toujours une bouteille de coca au tiède, en dehors du frigo, sans bulle. Et du coup, donc derrière tout ça, ça va se retrouver avec un match Chelsea Green versus Shayna Baszler. Bon, voilà, c'est un match sans problème hein, pour Shayna Baszler qui va disposer facilement de Chelsea Green. Malgré les tentatives de distraction de Piper Niven. Et derrière, on a Piper Niven et Baszler qui se mettent sur la tronche et Zoé Stark qui vient en aide. Et donc, mon papy, on y va à cette tag team Baszler-Zoé Stark.
Oui, on y va. Complètement. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle?
Les deux à la fois.
Parce qu'en fait, je vais... Alors, il y a le verre à moitié plein, à moitié vide. Si on est à moitié vide, on va se dire, bah, c'est comme dommage, Shayna et Zoé, qui avaient des gros passages solo, des grosses victoires, enfin, des moments importants solo ces derniers temps, qui se retrouveraient dans la division féminine, qui est comme la plus faible division, enfin, la division tag team féminine, qui est comme le fond du fait tout, quoi, parce que déjà, les divisions féminines, c'est pas balèze. Mais alors, la tag team, c'est une horreur. Mais d'un autre côté, Shayna, c'est quand même la record woman des titres, je crois, actuellement de tag team. Qui, du coup, si elle cherchait les ceintures, elle pourrait devenir seule détentrice de ce record. Et puis, bah, Zoé, bah, mine de rien, si on se remet un petit peu dans le contexte, les anciens d'NXT, ça a plutôt tendance à s'écraser dans le main roster ces derniers temps, puisque bah, on ne voit plus Apollo Crews, on ne voit plus Cameron Grimes, on ne voit plus les deux naines, là, ni les deux sorcières. Y a les prêtres de Lee, là, qui sont à moitié morts. Il y a JD McDonagh qui s'en sort un peu, et puis Grayson Waller côté SmackDown. Mais sinon, c'est vrai que ça a peu de mal à décoller. Donc, du coup, bah, Zoé qui reste sortir une rivalité avec Becky Lynch, même s'il était parti avec Trish Status, mais bon, c'est comme Zoé qui portait l'aspect catch, pour derrière aller dans un segment tag team avec Shayna, qui est un peu une des références dans cette division, je trouve que ça peut être la partie verre à moitié plein. Et je vais être franc avec toi, vu ce qu'on s'est tapé à SmackDown niveau filles, et bien je vais choisir la partie pleine de ce verre.
L'optimisme, évidemment. Tu as tout à fait raison. Il faut voir le verre à moitié plein, je pense, dans cette histoire. Et puis elles vont être parfaites. Elles ont le profil parfait pour aller chercher des noises à Chelsea Green et Piper Niven. Ça peut donner des étincelles, ces matchs. C'est leur confrontation. Donc, curieux de voir ça. Comme tu l'as dit, il faut prendre ce qu'on te donne, surtout quand tu viens d'NXT. Il faut, au moins, si on te donne quelque chose, il faut en profiter. Ce soir, c'est la célébration de Gunther et donc de son règne historique. Il a battu le record du règne le plus long pour le championnat intercontinental. Il arrive, les pyros, les colonnes. Voilà, tout est fait pour célébrer, simple mais quand même grandiose. C'est la célébration. Le ring général a réécrit l'histoire. Ça représente beaucoup pour lui. Il doit donc saluer les légendes qui ont été championnes avant lui. Toutes ces légendes qui ont élevé le championnat. Aucune. Hein, s'il devait vraiment remercier, ce serait pas vrai. Et puis, il n'y a pas de compète ici. C'est tous des gros nazes. Il n'y a personne pour venir le chercher. Peut-être que je vais me faire une feud avec moi-même. Tout simplement. Et là, on entend le chouchouche de Chad Gable qui vient et qui en a pas fini. Ils ont eu voilà cette grosse baston qu'ils ont eue là pour le titre, mais c'est pas passé. Là, le voir là, Gunther célébrer, il est rentré dans l'histoire. Bah bravo, hein, il reconnaît que Gunther était le plus fort. Mais ce qui lui a surtout fait mal au cœur, qui lui a pris le cœur à Gable, c'est les larmes de sa fille hein, aux abords du ring. C'est pas les défaites, c'est pas les coups, c'est pas les claques, c'est pas les atébis. Non. C'est les larmes de sa fille, et ça, c'est des larmes causées par Gunther, hein, qui était allé provoquer en plus sa famille, qui était venue le voir assister à ce match si important pour lui. Tu ne comprendras jamais ce sentiment qu'il y a à Gunther, et donc je t'ai battu une fois, je compte te rebattre une dernière fois. Allez, il nous ressort un peu la promo qu'il avait fait un peu en off, qu'on avait pu voir sur le .com, je crois, ou sur les réseaux sociaux. Il dit, bah voilà, grosso modo, il jure devant Dieu qu'il va remporter ce titre et qu'il va la dédier à sa fille pour qu'il lui redonne enfin le sourire et que quoi qu'il arrive, il trouvera un moyen de faire tomber Gunther.
Gunther met les pinceaux en cette, dans sa promo, quoi. Mais il a rebouclé deux ou trois fois sur sa fille. Elle va pas pleurer parce que bon, elle va pas pleurer. Hein. Ouais, d'accord.
Ouais, c'est ça. Oui, t'as raison, oui, il a fait un truc comme ça qui était un petit peu. Il s'est un petit peu embrouillé. La première fois qu'il l'a fait était mieux, mais bon, tant pis, écoute. Gunther, lui, il n'était pas convaincu. Hein. Lui aussi, il a remarqué qu'il commençait à sombrer. Il dit écoute, tu utilisais pas ta famille là pour avoir l'attention, qu'est-ce que c'est que ça? T'es un gros naze comme père, t'es vraiment un gros nul. Et Gable attaque Gunther. Kaiser et Vinci sont là, et Otis vient pour débarquer. C'est la grosse bagarre, et voilà! Que Tipa sort, tu parlais d'un mec d'NXT, Thomas Lushempa.
Oh non.
Oui, eh ben oui. Il vient avec une chaise. Et derrière, donc Imperium qui est obligé de prendre la fuite. Et tout ça va donc devoir se régler en match, mon papy. Eh oui, parce qu'à Fire Academy et Shempa maintenant ont un ennemi commun, tout simplement. Gunther et sa clique de nazillon.
Ouais, bah je t'avouerai que j'ai été doublement surpris, agréablement surpris quand j'ai vu que le brave Chad n'était pas encore totalement écarté de cette histoire de intercontinentale. Parce que je pensais vraiment que, vu la célébration de Gunther, qui était vraiment en grande pompe, je me suis dit, bon, bah, le mec qui va l'interrompre, ça sera un bel adversaire, quoi. Et de voir Gable débarquer à ce moment-là, je me suis dit, ah, ça c'est sympa, parce que Gable, justement, je trouve qu'il était un challenger très valeureux. Je t'avouerai que je n'ai pas eu la même sensation quand Ciampa est arrivé ensuite, où là je me suis dit, oh non, pas Ciampa, s'il vous plaît. Moi, en plus, j'aime bien à la base Ciampa, mais les mecs qui sont comme ça, qui sont totalement foncés à l'ocarde, j'ai beaucoup de mal à les voir d'un coup réapparaître comme des mecs crédibles, en fait. Et Ciampa, je pense qu'il a rien fait là, il a juste battu le gros banc de sonnerie de la semaine dernière, on ne sait même pas pourquoi. Bah si, c'était juste pour le replacer, pour peut-être être un mec qui sera dans la même discussion que Gunther. Moi, j'y crois absolument pas. Attends de voir la suite, mais bon, la suite va arriver assez tôt et j'ai peur que ça aille dans mon sens.
Et oui, oui, bah oui, tu te souviens-toi, il avait été dans le bureau d'Adam Pearce la semaine dernière. Donc Adam Pearce il lui a dit saisis ta chance. Bah voilà, il a saisi sa chance. Hein. Il écoute les directives de son manager, tout simplement. Et donc on a eu ce match à 3 contre 3. Bon, voilà, un gros match, hein, évidemment. Imperium d'un côté, l'Alpha Academy et Ciampa de l'autre. Ça, c'est quand même du beau monde. On a des énormes German souplesse, notamment de la part de Gable sur Vinci. Gunther qui vient briser le compte, qui place sa power bomb, mais Ciampa qui vient s'en mêler. Le running knee sur Gunther qui est obligé de sortir. Ciampa donc se fait un petit peu martyriser par Kaiser, mais Otis débarque, hop, il l'envoie au tapis. Le gros coup de botte de Gunther sur Otis qui est allongé là, pour de bon. Le roll-up est tenté sur Gable, mais Gable ne se fait pas avoir. Le ankle lock est placé sur Vinci. La soumission qui est derrière. Mais Ciampa qui. Non, c'est la soumission.
Gunther essaie d'intervenir.
Voilà, c'est voilà, Gunther qui intervient, tu as raison. Et Ciampa qui le place en soumission en headlock. On a le ankle lock, donc on a les deux hommes hein, qui sont en soumission, hein, le ankle lock de Gable sur Vinci et Gunther qui est pris en headlock par Ciampa. Donc alors ça a dû faire plaisir à Triple H qui adore ce genre d'image. Hein. Il en a usé et abusé à NXT dans les matchs tag team. Et à la fin, Vinci est obligé de taper, d'abandonner sous le regard de son maître autrichien. Gunther, victoire de Gable, Otis et Ciampa. Et le pire qui puisse arriver, évidemment, pour Papy, c'est que Tommaso Ciampa ait un title shot.
Simplement bah, je pense, hein, parce que l'histoire du match, quand même, c'est que tous les grosses offenses sur Gunther, elles viennent de Ciampa, en fait.
Et oui.
Il lui met le coup de genou, il le maintient bloqué en soumission pendant que Gable s'occupe des sous-fifres. Je pense que l'histoire qu'elle nous a racontée, c'est que Ciampa va être un adversaire pour Gunther. Et ça me rappelle un peu une rivalité qui avait eu lieu à NXT entre les deux, avec un match qui m'avait passablement énervé parce que le finish était tout moisi, puisque ça se finissait avec un Anatemi from out of nowhere de Gunther qui avait donné la victoire.
Les heures sombres.
Les heures sombres de Gunther. C'est à l'époque où il était encore un peu gros et qui s'est pas catché. Bon, bah là, il a à peu près pris les bases du catch. Et les bases du catch, c'est pas de gagner avec Anatemi. Et c'est pas l'affronter de Ciampa. Donc, bon, bah, je verrai la suite. Mais je suis pas du tout enjoué par ce segment.
Bon, j'espère que tu as été plutôt diverti par ce qui s'est passé ensuite. Toi qui aimes les Japonais, en voici un autre, Nakamura, qui est toujours après Seth Rollins. Hein. Donc, on a une petite vidéo, Nakamura qui s'exprime par petite vidéo. Voilà. Il fait des petits clips maintenant. Et c'est tant mieux. Il parle en japonais. Et il trouve les mots. Il dit voilà que Seth Rollins n'a pas d'honneur. Il n'a fait que des trahisons pour arriver là où il est. Il n'a fait que trahir. Donc, on a même des images du Shield qu'il avait rejoint. Comment s'appelait cette faction de corporate,
The Authority.
Voilà, il n'a fait que manipuler, mentir, donc c'est la honte. Il va donc montrer tout ça au monde, qui est le vrai Seth Rollins débarque. Bienvenue à tous. C'est vrai, je suis un gros manipulateur, c'est vrai, je suis un gros menteur. Attends, on dirait Bernard Tapie. Il peut penser à Bernard Tapie, c'est écoutez, peut-être. Et toutes les choses voilà, que Nakamura a dites sont vraies. Mais c'est aussi un père, un combattant. Il y a beaucoup de pères ce soir, hein, mon dernier trou. Les papas sont là. Et puis, il est le champion du monde, tout simplement. Au début, il essayait d'être ce que les autres voulaient qu'il soit, et finalement, il est devenu celui qu'il est vraiment, Seth freaking Rollins. Et c'est pour ça que tout le monde chante sa chanson. Il n'est ni un good guy, ni un bad guy. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Il est the guy, il est Seth freaking Rollins. Mais bon, les gens ne sont pas venus l'entendre parler. On pourrait se demander si c'est vrai. Et ils sont venus le voir se battre. Allez, Nakamura, viens. Viens, t'y pars. Nakamura veut pas l'affronter ce soir. Il veut l'affronter quand il veut, tout simplement. Il veut le championnat, pas de problème. Mais c'est lui qui va choisir. Et en plus, au moment où il annonce ça, il venait d'attaquer Ricochet en coulisses. Hein, Ricochet.
Ah, le cochon.
Les Ricochet, le cochon, s'est fait attaquer en coulisses. Et Nakamura dit, bah voilà, je te prendrai ton titre, mon petit menteur. Petit scarabée menteur, manipulateur, mais pas ce soir. Et donc, bah, c'est la grosse frustration. C'est la grosse frustration. Mais vous inquiétez pas, si vous aimez Nakamura, il sera lundi prochain à Raw pour affronter Ricochet.
Ouais, bon, c'est un match original, en plus. On l'a pas vu 15 fois déjà, ce match-là.
Mais bon. Deux hommes qui se connaissent effectivement déjà très bien, mon papy.
Mec, c'est ce que c'est très bien qu'on connaît trop bien aussi. Bon, c'est pas cette partie-là qui va le plus en jouer. Je t'avouerai, moi j'étais un peu hypé. Moi, je vais dire que c'était ce que j'aurais voulu voir. Et si Seth Rollins pour moi avait vraiment été malin, je pense qu'il aurait dû lancer un open challenge en fait. Je pensais vraiment qu'il allait faire ça. Quand il a commencé à mettre sa ceinture par terre, je me suis dit, bah tiens, il va lancer un open challenge. Oui. Ça va obliger Nakamura à sortir du bois en fait. Et puis après, tu pouvais se faire devancer par je sais pas qui, même par Ricochet d'ailleurs, hein, qui aurait pu dire, bah tiens, moi ça m'intéresse. Enfin bref, j'aurais écrit différemment ce truc-là, plutôt que de dire Seth Rollins qui met sa ceinture par terre, et puis qu'ensuite, là tu dis non, non, et puis d'accord, bon, bah, ok, pas de souci. Bon, c'était pas super. Alors la partie Nakamura, en fait, tant qu'il est en segment vidéo, ça va finalement, parce qu'il arrive à lui mettre un petit air un peu mystérieux, là, attention. Qu'est-ce qu'il veut vraiment nous dire, Nakamura, vu qu'on comprend rien. Et par contre, dès que ça déroule un peu, bah voilà, il va se coller avec un mec comme Ricochet. Il prend des risques, Nakamura, en fait. Hein. C'est à un moment, à chaque fois que tu te dis, tiens, on va lui laisser une chance pour l'aimer à deux.
Ah, oui, papy.
Tu m'entends plus? Allô, allô?
Ouais. Si ouais, on t'entendait plus, là, t'as dit Nakamura, il prend des risques. Et puis après, la censure a frappé.
Ah, la censure a frappé alors que je disais qu'il était chiant comme la pluie. C'est dommage. Ouais. Je réitère mon avis là-dessus. Il n'arrive pas à décoller en fait, Nakamura. Et puis il n'est pas aidé par l'histoire. Je trouve que l'histoire, il l'a aidé, pas aidé. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à peu près à le rendre son personnage un peu plus dangereux. Donc oui, ça, c'est pas positif. Ouais. Par contre, le reste de l'histoire, c'est mou du genou, quoi. Avec Seth Rollins qui le provoque et lui qui réagit pas.
Ouais, effectivement, il y a peut-être quelque chose de plus original à faire. Comme tu disais, là, un open challenge, ça pourrait être sympa. Il dit, bah, dans ce cas-là, c'est le décompte. Seth Rollins lance un décompte, il dit, écoute, je lance un open challenge toutes les semaines, comme ça, bah, ça se trouve, un jour, qui sait, quelqu'un va prendre le titre avant toi, quoi, par exemple.
C'est ça, ouais. Je pense qu'en fait, c'est ça le truc à vendre, c'est de dire, attends, t'es en train de faire un travail de longue haleine sur mon dos, mais si ça se trouve, quelqu'un va en profiter avant toi s'il avait été pas, tu refuses de m'affronter. Et là, ça serait.
Et derrière, ça n'empêche pas Nakamura d'attaquer les mecs, toi, en backstage, si ça l'amuse.
Exactement.
Exactement. On est d'accord. Bon, bah écoute, cette histoire continue. On va terminer par de la division féminine. On a tout d'abord eu Tiffany Stratton qui a. Et chercher à embrouiller Becky Lynch avec son titre à NXT. Voilà, avoir une signature de contrat et tout simplement le match sera défendu. Vous l'avez peut-être déjà vu ce match au moment où vous nous écoutez. Tiffany Stratton versus Becky Lynch, ce sera à NXT, mon papy. Est-ce que Becky Lynch va avoir enfin le titre de NXT, être championne de NXT? Vous le saurez en regardant NXT, tout simplement.
Va-t-on avoir un nouveau record avec une nouvelle personne qui sera Triple Crown Champion? Suspense.
Oh là là. En tout cas, la vraie championne, c'est Rhea Ripley. Ce soir, elle affronte Raquel Rodriguez, dont on avait parlé juste un petit peu avant. Hein. Raquel Rodriguez remotivée à nouveau. On a eu une petite séquence avec le Judgment Day d'ailleurs, juste avant, où il commence à parler de Jey Uso. Et puis Rhea Ripley a fini par leur dire, ce soir, moi, je gère Raquel Rodriguez, pendant que les deux hommes, pendant que les mecs discute de l'arrivée, de comment faire venir finalement Jey Uso dans le Judgment Day. Donc Rhea Ripley versus Raquel Rodriguez. Un bon combat, c'est proche de ce qui s'est passé la dernière fois, probablement un peu plus court, et tant mieux, entre les deux filles, et surtout la grosse power bomb là de Rodriguez sur Rhea Ripley sur le tablier du ring. Elle est complètement cassée, Rhea Ripley, et Vlatipa que débarque, sortie de nulle part, Nia Jax. Eh ouais, Nia Jax, eh oui, un gros quoi retentit dans l'arène, qui fait un Samoan Drop sur Raquel Rodriguez. Ripley en profite pour attaquer Rodriguez, lui passer son Riptide, et c'est le compte de 3. Mais papy, ça se termine pas là, puisque derrière, les deux femmes se confrontent, et Nia Jax attaque Rhea Ripley. Et oui, elle lui fait un gros coup de boule. Comme voilà, Rhea Ripley aussi fait des coups de boule. Voilà, c'est le gros coup de boule de Nia Jax. La descente de la cuisse, souvenez-vous, hein, ce beau leg drop de Nia Jax qui en a fait frémir plus d'un. Et puis le gros splash derrière où elle s'assied tout simplement sur son opposant en sautant. Le bing boom badaboom tsoin tsoin. Et le show se termine donc. Nous sommes en 2023, en septembre. Et le et Monday Night Raw se termine sur Nia Jax qui célèbre son attaque sur la championne. Le défi est donc lancé.
Le défi est carrément lancé. Alors, je pensais qu'il y aurait une intervention parce que le fait qu'il n'y ait pas Dom Dom aux abords du ring, c'est souvent une fausse piste pour te dire qu'il y aura une intervention de quelqu'un d'autre. Mais par contre, alors, Nia Jax, je ne la voyais pas du tout venir, quoi. Et du coup, j'étais... Alors, je suis pas un grand fan de Nia Jax, mais je suis pas non plus un hater qui va dire que c'est une catastrophe, que c'est la honte pour le catch et tout ça qu'elle revienne. Alors, franchement, vu ce qu'on se bouffe comme catch féminin depuis des mois, je vais pas non plus dire que c'est Nia Jax qui a tout cassé. Hein. Ça pourrait pas être pire que ce qu'on se chope à SmackDown en ce moment. Et par contre, j'étais interloqué sur la suite en fait, en me disant, bah attends, Nia Jax, elle va être quoi? Elle va être est-ce qu'elle revient pour Raw déjà? J'étais pas certain de ça. Parce qu'en plus, on venait de voir le SmackDown, là, où on vient de le raconter, où il y avait une espèce de petite connivence entre le Judgment Day et la Bloodline. Et je me disais, tiens, ça aurait pu être un signe de Bloodline de dire, nous aussi, on vient de recruter quelqu'un, puis elle va filer un coup de main au Judgment Day. Et par contre, après, chacun chez soi et les chèvres seront bien gardées. Eh ben non, Nia Jax, la grosse chèvre, a décidé d'attaquer la grande chèvre Rhea Ripley. Alors, j'exagère en disant grosse chèvre parce que j'ai trouvé plutôt en meilleure forme qu'elle ne l'a été, Nia Jax. Si ça peut être aussi en lien avec sa mobilité, ça serait vraiment quelque chose qui serait intéressant parce que c'est vrai qu'elle avait des limites physiques. Si elle est un poids léger, un peu renforcée musculairement, ça peut être pas mal parce que du coup, ça sera un physique qu'on n'a vraiment pas du tout dans le roster féminin, quelqu'un qui a un physique aussi massif. Et si elle est mobile, enfin, il n'y a pas Piper Niven, mais elle est vraiment tellement loin dans la carte que je ne la compte pas. Mais du coup, Nia Jax, si elle arrive à être mobile, ça pourrait être intéressant.
Ouais, effectivement, je suis un peu comme toi. Je peux entrevoir un scénario intéressant où on envoie Nia Jax dans les pattes de Rhea Ripley. Avec pourquoi pas un title shot et puis une grosse perte de Rhea Ripley, toi, face à Nia Jax qui a pas beaucoup de rivalité, de compétition hein, dans cette division, on l'a suffisamment souligné. Un peu étonné par l'alignement, mais c'est Nia Jax qui est intéressée par le titre, tout simplement. Et donc elle a dégommé les deux qui étaient. Sur son chemin, donc la contender et puis la championne. Et maintenant l'histoire est réglée. On attend. Le contrat est prêt. Hein, le contrat est prêt déjà. Il est prêt à être signé sur le bureau, dans le bureau d'Adam Pearce qui a dit oui tout de suite. Hein, que la Nia Jax débarque.
Mais Nia Jax.
Effectivement. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que la Bloodline a fait l'opener et le main event? Ou est-ce qu'on peut considérer que Nia Jax a réussi là où Jey Uso a échoué?
Ah, ça c'est un beau débat, je pense, effectivement. Nia qui revient directement au poste de main event et là, elle marque son territoire.
Après, il y a le foot qui est revenu à la télé et je me demande si ça explique pas cette troisième heure.
Ah, bon, ça, je...
Lundi soir, donc je poserai la question à Ringside qui suit plus, un peu plus ce genre d'informations. Mais effectivement, c'était donc comme ça que s'est terminé ce show rouge avec le retour d'un fantôme, Nia Jax, et de retour à la WWE après son petit passage au Rumble. Hein. Vous souvenez-vous, elle avait fait un petit coucou au Rumble et ça n'avait rien donné derrière. On pensait qu'elle en avait fini avec le catch. Mais finalement, un beau chèque. On aura décidé autrement. C'est l'heure du mot de la fin. Mais ouais, faut payer les factures, le top, le flop et la note. Mon bon papy, pour ce show du Monday Night Raw du 11 septembre 2023.
Bah, merde. Qu'est-ce qu'on va pouvoir donner comme alors le flop, on le donne à Ciampa, voilà, ça c'est facile. Oh, oui. Il m'a énervé, là, à exister, en fait, il m'a énervé. Je ne vais pas rajouter dessus, hein, de toute façon, j'ai déjà expliqué mon point de vue à ce sujet-là. Le top.
Alors le top, on a eu Imperium qui était là, on a eu Drew McIntyre qui cherchait les embrouilles avec Xavier Woods, on a eu de la tactique.
Ouais. Il n'y a pas de truc qui se détache, je trouve, en positif hein, dans ce RAW. On va dire Jay qui ouais, se fait des copains partout où il passe. Allez, ouais. Jay l'embrouille, voilà.
Jay l'embrouille, c'est pas mal.
Jay l'embrouille qui va se fighter à contre à peu près les trois quarts du roster. Et ma note, alors c'est compliqué de donner une note parce que c'est comme moins bien que l'euro précédent qui avait vraiment été de très bonne facture. Et d'un autre côté, ça reste comme largement au-dessus de SmackDown, je trouve, en termes de contenu et de fait. Enfin voilà, quand je suis arrivé au bout de la troisième heure et que j'ai vu Nia Jax arriver, j'étais pas blasé, j'étais au contraire déjà toujours dedans quoi, dans le show. Tandis que SmackDown, je m'accroche la première heure. Du coup, j'avais donné 2,5 à SmackDown. Je crois que j'ai donné 3,75 au dernier Raw, peut-être, ou 4,25 peut-être. C'est trois trucs un peu au milieu.
Un Raw légendaire, n'oublie pas.
Ouais, donc on va donner un bon 3,25 parce qu'il n'y a quand même pas eu de segment ultra marquant, mais ça reste quand même une bonne moyenne, quoi. Enfin, un bon niveau de Raw avec des bonnes histoires et on a envie de voir la suite, quoi. Ça, c'est important.
Oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Pour mon flop en ce qui me concerne, parce que j'ai presque envie de le donner à Cody Rhodes.
J'allais dire, pour une fois, je ne l'ai pas donné à Cody Rhodes. Fais-toi plaisir.
Ben voilà. Parce que là, franchement, c'était vraiment le strict minimum et ça m'inquiète un petit peu quelque part finalement. C'est un flop d'inquiétude. C'est un flop d'inquiétude.
Il n'est pas rassurant. Que... Hein.
Non, il n'est pas rassurant. Et puis mon top, je vais le donner au Judgment Day. Voilà, de la même manière que on a eu le fil rouge de Jey Uso, j'ai bien aimé la contrepartie de Judgment Day qui fait du gringue, voilà, de la drague là auprès de Jey Uso de façon plus ou moins subtile. Et je trouve que Judgment Day, ils ont toujours quelque chose à faire ou à dire. Chaque show rouge, ils sont indispensables en fait. Ils sont indispensables. Comme on se moquait d'eux en disant, et voilà que débarque le jugement de Day, mais ça veut tout dire.
C'est la petite sauce qui rehausse le plat qui nous est servi. Hein. C'est, s'il n'y a pas, et selon les épisodes, on a plus ou moins besoin de sauce, en fait.
Exactement. Ma note, je vais être un peu plus haut que toi, mais effectivement, on est loin de l'épisode légendaire qu'on a eu la semaine dernière. C'est de la continuité, mais voilà, sans folie. Du coup, je vais aller sur un 3,75. Un 3,75 pour cet épisode de Monday Night Raw qui retombe un petit peu par rapport à la semaine dernière, mais avec quelques petites surprises malgré tout. Et puis, on est quand même sur quelques bonnes bases. Il y a juste quelques petites choses à régler pour pouvoir repartir dans le bon sens vers l'excellence, tout simplement. C'est ça qu'on vise à chaque fois à la WWE. Très bien, et c'est l'heure de se quitter. Je vous rappelle que Catch Up, c'est votre podcast qui analyse toutes les semaines les shows de la WWE. Raw, SmackDown, tout y passe. Pour ne manquer aucun épisode, il suffit de vous abonner. Et en plus, c'est gratuit sur toutes les bonnes plateformes de podcast et également sur YouTube. réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Catchup CDC. Le lien vers le Discord est dans notre description. Je te remercie, papy, mon tag team partner, là. Il fallait le faire, hein, il fallait le faire. Les forces vives du studio Catchup sont tombées entre ceux qui partent à l'autre bout du monde, ceux qui chopent la gastro et ceux qui sont pris par des responsabilités professionnelles. Tu te rends compte, des gens qui ont des responsabilités au travail.
Oh là là, là là là.
Non, qui travaillent pour le grand patron, le grand système. Voilà, tout ça pour.
Mais qui en même temps donnent du plaisir au peuple français, hein, donc on apprécie leur sacrifice.
Oui, 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 bien sûr. On apprécie. Merci, patron. Merci, patron.
Voilà, on apprécie les patrons.
On apprécie les patrons.
Mais merci à toi, d'ailleurs, patron. D'ailleurs, j'en profite, hein, vu que.
Ah, c'est vrai que on a été là-dedans. J'avais, non, mais j'avais ta lettre de licenciement prête à être signée, là.
Oui, j'ai eu une petite absence, là. Du coup, de quoi on parlait déjà. Mais oui, bah, merci, patron. De nous avoir permis de m'avoir permis de m'exprimer
de m'avoir autorisé à prendre la parole.
Voilà, merci de me laisser parler dans ce monde qui est là pour nous brimer et puis zut, et voilà, vive la France, vive la République,
France, et vive la République, et vive la WWE. Allez, on se donne rendez-vous très bientôt, et d'ici là on vous souhaite évidemment à tous et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Salut à tous. Et vive le général.